C'est la revue de presse des hebdos avec Arlette. Salut Arlette.
Salut Léo. Bonjour à toutes et à tous.
Un titre quelque peu provocateur sur la couverture de Courrier International, Le bonheur malgré tout, une injonction.
Claire Carrard s'en défend dans l'édito. Il ne s'agit pas pour autant d'une injonction au bonheur. Simplement, nous avons regardé ce que faisait la presse étrangère ces dernières semaines et constaté que nous n'étions pas seuls à vouloir retrouver une certaine légèreté face à des peurs diffuses qui s'expriment de plus en plus. Alors vous trouverez ces articles dans la rubrique à la une, page 52. J'ajoute que si vous ne deviez lire et même acheter qu'un seul numéro du courrier, ce serait celui-là. En page 9, il vous propose 2022 en cartoons, une rétrospective des faits marquants de 2022 en 12 pages de dessins de presse, choisis dans la presse étrangère, tous plus pertinents, drôles, magnifiques, les uns que les autres.
Une beigne, c'est une claque, non ?
Eh oui. Et à la une du Canard enchaîné, le titre « Tout baigne à LFI ». Le sujet de l'édito d'Éric Emtaz, c'est ce qui s'est passé le week-end dernier chez les Insoumis, qui semblent bien s'être soumis au bompard-chic Manuel Bompard. Raquel Garrido, Alexis Corbière, Clémentine Autain, François Ruffin, écartés brutalement de la direction du parti. Du mouvement. Si la République, c'est Mélenchon, Darmanin, lui, c'est la loi. On apprend dans la mare qu'il a sacrifié la très originale préfète d'Indre-et-Loire, Marie Lajus, au nom de Léonard de Vinci, et surtout à la demande de certains élus locaux qu'elle gênait en les obligeant à respecter les lois. C'est en ça qu'elle est originale, selon le Canard. Enfin, le palmipède ne pouvait pas ignorer le scandale qui secoue le Parlement européen à Bruxelles. Scène de liasse au Parlement européen. Eva Kaili, une des 14 vice-présidentes du Parlement européen, prise la main dans le sac rempli de billets. Et elle ne serait pas la seule corrompue par le Qatar.
C'est la fin de l'année et Télérama prend de la hauteur avec son invité.
Dans Télérama, on se balade dans l'espace avec l'invité, le très médiatique Thomas Pesquet, qui ne se lasse pas de regarder, de photographier la planète Terre depuis l'espace. Dans la station spatiale, il y a Cupola, la coupole d'observation panoramique. Tout à coup, la Terre se tient là, je veux dire entièrement là, sous nos yeux. On a beau s'y préparer, c'est un choc. Un sentiment s'installe peu à peu, la conscience de la finitude de notre monde. C'est une chose de savoir, une autre d'éprouver. Alors avec lui, on découvre aussi le Physarum polycéphalum. Tu sais pas ce que c'est,
Pas du tout.
Eh ben, c'est surnommé le blob qu'il a amené à bord de la Station Spatiale Internationale. Le blob n'est ni animal, ni végétal et se nourrit de flocons d'avoine. C'est en page 47, si tu veux savoir.
J'irai jeter un œil.
On se désole en page 15. En Iran, tout progresse dans le sens de la démocratie et de la liberté, a lâché sans rire Hossein Amir Abdollahian, le ministre des Affaires étrangères iranien, après l'annonce de l'abolition de la police des mœurs. En République islamique, les discours officiels imitent donc à la perfection la novlangue de Big Brother dans 1984, le roman de George Orwell. Les mots disent l'inverse de ce qu'ils affirment. On s'intéresse à la nostalgie en page 41 avec l'historien Thomas Dodman qui retrace l'évolution de ce sentiment puissant devenu simple état d'âme. Et enfin, on s'émerveille avec les archéologues de l'Institut national d'archéologie préventive, l'INRAP, qui travaillent sur le site de Notre-Dame de Paris. Ils ont découvert deux cercueils en plomb dont la mise à jour avait suscité un véritable emballement médiatique. Le sarcophage contenant le corps du chanoine jubilé Antoine de la Porte, dix tombes maçonnées, un mur du XIe siècle dont l'épaisseur indique qu'il était destiné à soutenir une structure imposante, et surtout, soigneusement enterré, 3172 morceaux d'un jubé. Tu sais pas ce que c'est qu'un jubé, non ?
Mais non, mais dis-moi.
Et ben voilà, c'est un mur sculpté en pièces détachées, auréoles, pieds, tête, soit plus d'un millier de fragments sculptés, polychromes, comme un oiseau picorant une grappe de raisin ou Jésus portant la croix, allant de quelques grammes à plus de 300 kilos, recouverts de feuilles d'or ou de lapis lazuli.
Le dossier de l'Express est consacré à notre sommeil.
Ah, vraies innovations et fausses promesses. Sommeil, ce que dit la science. L'Express nous aide cette semaine à retrouver un sommeil paisible. C'est pas pour le marathon, ça. Ils doivent pas s'endormir.
Ah non, nous on reste éveillés 24 heures.
Attention, les Français sont toujours plus nombreux à se plaindre de leurs nuits agitées. Stéphanie Benz a mené l'enquête. Smartphone, séries, horaires de travail à rallonge ou décalés, magasins ouverts de plus en plus tard. Les occasions de négliger notre oreiller se font toujours plus nombreuses. On estime qu'un tiers des adultes dort volontairement ou non, moins de 6 heures par nuit, et se trouve de façon chronique en dette de sommeil, contre 25% voilà seulement 10 ans. Constate le professeur Damien Léger, chef du Centre du Sommeil et de la Vigilance à l'Hôtel Dieu. À l'hôpital Bichat, dans le nord de Paris, des insomniaques se retrouvent ici un jeudi sur deux depuis déjà plusieurs semaines pour un atelier de thérapie comportementale et cognitive. Une pratique basée sur des conseils, des explications, de l'accompagnement et des exercices pour aider à lutter contre l'insomnie. Dans tous les consensus internationaux, il s'agit du traitement de référence, confirme Sylvie Royan-Parola, psychiatre. Mais les médecins attendent, avec un mélange d'impatience et de prudence, un nouveau somnifère promis dans l'Hexagone pour 2024. Cela va être un tsunami de prescriptions. Des Français inventent la pilule anti-insomnie. Le premier d'entre eux a été autorisé au printemps par l'Agence européenne du médicament et il est déjà disponible en Allemagne et en Italie. En France, le Gvic-Vic.
Oula.
Gvic-Vic. Ouais, vraiment, je ne sais pas où sont allés chercher ça. Enfin bref, devrait être commercialisé à partir de 2024. Sur le papier, ce traitement a de quoi changer la vie des insomniaques. Notre produit apporte une approche nouvelle. Il bloque les mécanismes de l'éveil, contrairement aux molécules actuelles qui agissent plus comme des anesthésiants. Vous êtes méfiant, insomniaque ? Vous préférez croire à l'automédication et aux médecines douces ? Méditation, plantes, lithothérapie, CBD. Stéphanie Benz a demandé à deux confrères de l'aider dans son enquête, Bruno Cotte et Victor Garcia, et sur ses remèdes d'automédication. Alors, il y a des compléments alimentaires, plantes et régimes, des pistes intéressantes, mais attention à l'emballement. Il décline les nombreuses substances dont des effets ne sont pas toujours bénéfiques, voire parfois dangereux.
Cette semaine, ce n'est pas le 1, mais le 2 en 1.
Eh bien oui, parce qu'il y a deux feuilles. Alors la première feuille s'intitule « Comment guérir l'information ?» qui traite le sujet brûlant de la fatigue informationnelle des Français. Des Français qui tournent le dos à la presse et aux journaux, télé, radio. Et la deuxième feuille proclame « S'informer, pourquoi nous savons déjà tout ?» Pardon.
Tu en perds ton micro.
Oui, j'en perds le micro. Nous savons déjà tout, non, quand même, un peu inquiet. Alors, cette page est un petit essai signé Bruno Patino et qui sera aussi publié dans la nouvelle collection baptisée Halte à la Martinière. L'info, c'est le sujet hebdomadaire de cette chronique, n'est-ce pas, Léo ?
Mais oui.
Et pour ce marathon, eh bien, j'ai choisi et j'ai réalisé un petit montage avec les titres des paragraphes de cet essai. Tu me donnes 5 minutes de plus, Léo.
Je te donne autant de minutes que tu veux, Arlette.
Alors, allons-y. Alors, c'est pour ça que j'ai bousculé le micro, parce que ce n'est pas très simple à lire.
C'est un énorme dépliant
voilà.
que tu as
c'est
là.
C'est la grande
vrai, hein.
feuille voilà, qui ressemble à celle du 1.
Va pas tout faire valdinguer dans le studio quand même.
J'essaye. Alors, d'un monde où l'information était rare, nous sommes passés à un monde où elle est surabondante, multiple, protéiforme et présente en permanence. Il n'est plus possible désormais de quantifier les messages auxquels nous sommes soumis. Le flot ressemble à un tsunami quotidien qui menace à chaque instant de nous engloutir. De Gutenberg à Zuckerberg, le créateur de Facebook, tout a changé. Je tourne la feuille.
Vas-y, vas-y.
C'est en direct, hein, vous savez, il vous a dit, hein, Léo, qu'on était en direct. Alors... L'information désormais nous atteint sans que nous l'ayons demandé. Nous n'avons plus besoin d'aller la rechercher. Nous n'avons jamais eu autant d'informations, mais trop, c'est trop. Certains analystes appellent ça l'infobésité. On nous divertit, on nous scandalise, on nous interroge, on nous bouleverse, on nous alerte, on nous raconte, on nous explique. Mais au fait, qu'est-ce qu'une information ? Dans le domaine de l'information, tous les messages ne se valent pas et tous les émetteurs n'ont pas le même statut. L'information est le résultat d'une transformation, d'une action humaine. Elle doit mettre en jeu un processus de vérification par un individu ou une organisation désintéressée et responsable. Ce que les anglo-saxons résument en trois lettres, V-I-A, Verified, Independent, Accountable. T'as vu ça, si je suis bonne là ce matin.
Bien joué.
Être désintéressé signifie qu'on ne possède pas un intérêt direct personnel dans l'information que l'on publie, et donc qu'on ne la rend pas publique pour obtenir un avantage personnel ou en termes d'argent ou de pouvoir. Enfin, en transmettant cette information, on engage sa responsabilité professionnelle, réputationnelle et juridique. Un témoignage, pour devenir information, doit passer par ce processus de transformation. Il en est de même pour les dénonciations utiles des lanceurs d'alerte. Quelqu'un doit intervenir sur cette matière. C'est le métier des journalistes. Et il le fait, le journaliste, d'autant mieux qu'il le réalise en relation directe ou indirecte avec une organisation collective que l'on appelle une rédaction, partie prenante d'un média. Et c'est ce collectif qui doit être indépendant et responsable et ne pas prendre part à l'événement lui-même. Et ça nous sert à quoi ? En premier lieu, informer permet de contrôler la façon dont les pouvoirs se comportent. En second lieu, l'information organise quelque chose que le philosophe allemand Jürgen Habermas appelle l'espace public, c'est-à-dire un lieu réel ou symbolique, dans lequel les idées circulent et sont discutées de manière rationnelle afin de se cristalliser en opinion publique. Les journalistes, en plus de vérifier l'information, sélectionnent et hiérarchisent les sujets. Certes, ils le font avec leurs propres idées, leurs propres préférences, leurs propres présupposés, mais malgré cela, ils nous aident à faire le tri dans l'univers infini des discussions. Et il prépare ainsi le débat politique qui s'organise autour de quelques grands thèmes. Il faut bien faire la distinction avec la propagande ou même le prosélytisme. Il ne s'agit pas pour l'information produite par les rédactions de dire au public ce qu'il doit penser, mais de l'aider à se mobiliser sur les sujets sur lesquels il faut penser. Contrôler l'action des pouvoirs et organiser l'espace public, ces deux fonctions de l'information contribuent à permettre au public d'agir en citoyen. C'est dans l'intérêt public, selon une expression couramment utilisée pour définir ce qui légitime la production de l'information. Or, cet intérêt collectif n'est pas forcément évaluable par les individus. En économie, on appelle ça une externalité. L'information vaut donc plus que ce que nous sommes prêts à payer individuellement pour elle. Or, elle n'est pas un don du ciel, un phénomène naturel qui nous tombe dessus comme la pluie. Elle n'a pas toujours existé. Et en quelques siècles, nous sommes passés de son invention et de son accélération pour aujourd'hui constater son engloutissement. Je tourne la page.
Mais c'est de l'origami, ton
voilà,
fascicule.
C'est exactement ça. Alors, j'en étais à la page 3. Je vais aller à la page 4. Voilà.
Ça fait 2 mètres sur 2 mètres.
Ah oui, c'est à peu près ça. Mais j'avais tout noté. Voilà. La guerre des récits. Un espace public où tout le monde se croit prophète et dans le même temps doute de tous et de tout nourrit un affrontement d'un nouveau genre. La guerre des récits. Fake news, désinformation et mésinformation circulent dans le même espace que l'information et tendent à être privilégiées de façon pulsionnelle. À l'intérieur de chaque territoire, c'est le combat des arguments de tous contre tous, de toutes les opinions contre toutes les opinions, le combat qui remplace le débat. Cette polarisation produit une démocratie émotionnelle, une hémocratie qui tend vers l'ingouvernabilité. Entre États peut apparaître ce que l'on appelle désormais la guerre hybride, qui commence par des campagnes de désinformation avant d'aboutir à l'offensive militaire. Dans tous les cas, l'information est l'ennemi. La guerre menée par la Russie en Ukraine donne une illustration parfaite de la guerre des récits. Il s'agit pour le Kremlin d'utiliser l'ensemble des réseaux pour combattre chaque histoire, chaque fait recueilli sur le terrain par les journalistes. Les cadavres ukrainiens deviennent des acteurs payés, les bombardements russes, des incendies volontairement déclenchés par les militaires ukrainiens pour émouvoir l'opinion occidentale. Ne pas s'informer, c'est laisser entrer la guerre des récits en nous, être son objet et son sujet. Mais alors que faire ? Eh bien, s'informer, c'est contribuer au rétablissement de la confiance entre nous tous. C'est pourquoi il faut individuellement se forcer à s'informer auprès des sources qui respectent les règles de la vérification, de l'indépendance, autrement dit du désintéressement, et de la responsabilité. Bien sûr, il y a des marques d'information qui ont leur histoire, ceux que l'on appelle les legacy médias, et les nouveaux acteurs bien installés. Mais dans la fourmilière des comptes et des pages qui se créent chaque jour sur les réseaux, il nous faut essayer de discerner ceux qui ont une démarche journalistique, qui explique l'origine de leur information en donnant des explications sur sa fabrication, les sources utilisées et les difficultés rencontrées. L'engagement pour une cause n'est pas forcément contraire à l'information. Ce qui compte, c'est de savoir si ce qui est transmis respecte la rigoureuse exactitude des faits et ne ment ni par action ni par omission. Enfin, on peut s'efforcer de ne partager sur les réseaux à titre d'information que ce qui nous semble avoir respecté la règle des VIA dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui nous confère comme public un rôle nouveau, celui de participer à la validation collective de l'information. Voilà, pas simple, mais important et finalement exaltant.
Et on termine l'année avec l'horoscope de Rob Bresny destiné au Capricorne. C'est le signe zodiacal à cheval sur 2022 et 2023.
Tu possèdes un potentiel légèrement supérieur à la moyenne pour t'adapter aux événements cycliques de la vie, Capricorne. Tu as toutes les cartes en main pour discerner les rythmes naturels à l'œuvre dans la vaste fresque de la comédie humaine. Et ta bonne étoile a voulu que le simple fait d'en prendre conscience suffise à te rassurer, à te motiver et à t'éclairer. Tout au long de 2023, attache-toi à développer cette capacité pour la porter à un niveau supérieur. Si tu t'alignes parfaitement sur les flux cosmiques, jusqu'à en ressentir les moindres fluctuations, ils seront les plus sûrs alliés.